Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les grands titres de ce 17 janvier, l'Australie s'efforce de comprendre les problèmes de sécurité liés au vaccin Pfizer. La Nouvelle-Galles du Sud enregistre 6 cas de COVID-19 acquis localement. 47 joueurs et joueuses de tennis de l'Open d'Australie entrent en quarantaine stricte et complète. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 6 cas de coronavirus acquis localement, qui sont tous des cas contacts dans l'ouest de Sydney, enregistrés hier samedi. De nouvelles alertes de santé publique ont été émises pour un site de l'ouest de Sydney et des routes concernant les transports en commun. Quiconque est allé à Centrelink à Auburn le 14 janvier dans l'après-midi devrait se faire tester immédiatement et s'auto-isoler jusqu'à ce qu'un résultat négatif se produise. Ceux qui ont voyagé sur les trains entre Warwick Farm et Auburn les 14 et 15 janvier ont également reçu les mêmes instructions sanitaires. La chef de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, conseille au public de se faire tester.
I can't stress enough the importance of people coming forward and getting tested. All of us want to see those restrictions we have in place eased. All of us want to be confident we can go back to what we had before Christmas. And that will only be possible if we get those high rates of testing to give our contact tracers, to give our health experts the confidence that we are on top of any unknown strains of the virus.
Le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que les autorités s'efforçaient de comprendre les préoccupations en matière de sécurité concernant le vaccin Pfizer soulevé par la Norvège. Le régulateur médical norvégien affirme que le vaccin peut être risqué pour les personnes âgées et en phase terminale. L'Agence norvégienne des médecines a enregistré 29 personnes qui ont souffert d'effets secondaires du vaccin, dont 13 ont été mortels. La ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, chargera le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de demander conseil directement au gouvernement norvégien sur la question. Le ministre Greg Hunt déclare que le public peut faire confiance au conseil du régulateur médical australien, la Therapeutic Goods Administration.
I have been in contact with the TGA this morning and requested that they seek additional information both from the company but also from the Norwegian medical regulator. Safety is Australia's number one priority, and so we'll continue to follow the processes of the medical regulator because that's going to keep Australians safe and ultimately provide confidence.
Au moins 30 clients évacués de l'hôtel Grand Chancellor de Brisbane ont passé leur première nuit hors de la quarantaine de l'hôtel alors que les autorités du Queensland sont convaincues d'avoir contenu une flambée de l'épidémie dans l'État. Aucun nouveau cas de COVID-19 n'a été détecté depuis que 129 clients ont été évacués de l'hôtel en milieu de semaine. Les clients ont été évacués après que 6 personnes liées à la quarantaine aient été testées positives pour une variante du COVID-19 très contagieuse. Les restrictions aux frontières dans plusieurs États se sont assouplies. Le Victoria a assoupli les contrôles aux frontières avec Greater Brisbane. Les habitants du Victoria, de retour, devront toujours demander un permis, passer un test COVID à l'arrivée dans l'État et s'isoler jusqu'à un résultat négatif. Et les voyages entre le Queensland et l'Australie méridionale sont autorisés à nouveau. Les voyageurs n'ont plus besoin de se mettre en quarantaine à leur retour en Australie méridionale, mais doivent se faire tester les premiers, cinquième et douzième jours dans l'État. L'Inde a commencé à vacciner sa population dans ce qui est probablement la plus grande campagne de vaccination contre le Covid-19 au monde. Les autorités espèrent vacciner près de 300 millions de personnes, dont 30 millions de travailleurs de première ligne. Les pays européens progressent dans leur programme de vaccination alors que les flambées de Covid-19 se poursuivent. Près de 3 600 000 personnes ont reçu une dose du vaccin au Royaume-Uni, le plus en Europe. La Grande-Bretagne a pour objectif d'administrer les premières doses de vaccin à 15 millions de personnes dans les catégories à haut risque d'ici mi-février. L'Allemagne a effectué plus d'un million de vaccins, mais les infections et les décès restent élevés dans le pays. En France, on note le seuil des 70 000 morts depuis le début de la pandémie et le couvre-feu qui commence à 18 heures partout sur le territoire depuis hier samedi. Reportage de John Timsit pour RFI.
Au rayon légumes d'un supermarché d'Ivry-sur-Seine, Emma choisit minutieusement ses poireaux. Pour elle et son compagnon, le couvre-feu perturbe leur repas.
Nous, on essaie de prévoir des menus et donc après de faire les courses en fonction. Donc peut-être qu'on essaiera de faire aussi des courses pour 2 semaines plutôt qu'une semaine. Parce que c'est vrai que en fait, le couvre-feu, ce qui est très embêtant, c'est surtout le week-end. Parce qu'on profite beaucoup moins du samedi.
À quelques rayons de là, Magali sélectionne plusieurs fruits. Elle prévoit des courses moins fréquentes, mais ces caddies seront-ils davantage remplis ?
Éventuellement, et puis aussi j'opterai sur tout ce qui est livraison à domicile pour pallier les 2 heures en moins en semaine éventuellement. Je pense que ça va être une alternance entre les deux.
Un rétrécissement des horaires et des conséquences d'organisation et de clientèle, comme l'explique Saïd, le gérant.
Hier soir, on a eu plus de clients qu'à l'habitude et ce matin, du coup, on avait un peu plus de monde et c'est pour ça qu'on a fait une ouverture un peu plus tôt pour qu'il y ait une plus grande plage horaire. Au lieu d'ouvrir à 10h, on ouvre à 9h. Bon, il y a des clients qui, d'habitude, y passent la semaine et là, on les a vus le samedi.
Le gouvernement se laisse 15 jours pour observer les effets de ce couvre-feu. Objectif, éviter une nouvelle vague de l'épidémie.
Des troupes de la Garde nationale des États-Unis ont été déployées dans 50 capitales des États du pays en préparation d'éventuelles marches pro-Trump ce week-end. Washington DC a été verrouillée avant l'investiture du président élu Joe Biden mercredi prochain 20 janvier. Les autorités ont érigé des barrières et déployé des milliers de soldats pour tenter d'empêcher une violente attaque des partisans de Donald Trump qui croient à des fausses allégations de fraude électorale. Les précisions de Franck Alexandre pour RFI.
Depuis la guerre de sécession, la capitale fédérale n'avait pas connu un tel déploiement de force. Et les images sont saisissantes. Le centre de Washington occupé par les gardes nationaux, l'arme au pied. La garde nationale, 400 ans d'existence, une armée de 800 000 réservistes souvent mobilisés pour répondre aux urgences de type catastrophe naturelle, mais également pour faire du maintien de l'ordre, souligne Philippe Gros, spécialiste de l'appareil militaire américain à la Fondation pour la recherche stratégique.
Le maintien de l'ordre fait totalement partie de leur mission. En 2020, les gardes nationaux ont été très sollicités également au printemps dans le cadre du maintien de l'ordre, dans le contexte des manifestations de grande ampleur qui ont suivi la mort de George Floyd. Pour ces unités de garde nationale, cette année 2020-2021 est très particulière. Après de très nombreuses années de sollicitations de long terme sur les théâtres d'opérations extérieures, on est à un niveau de sollicitation sur le territoire américain qui n'a jamais atteint un tel niveau pour toutes ces raisons.
Et rien qu'à Washington, 21 000 gardes nationaux, soit plus de militaires qu'en Irak et en Afghanistan combinés, sont donc mobilisés pour l'investiture du président Biden.
Les manifestations en France hier samedi contre la proposition de loi sécurité globale, des manifestations qui ont rassemblé des milliers de personnes à travers le pays. Écoutez Emmanuel Poupard, premier secrétaire général du Syndicat national des journalistes. Il est sur RFI.
La proposition de loi sécurité globale et puis un empilement de textes liberticides qui arrivent en masse. Il y a le projet de loi séparatisme qui arrive avec la première lecture à l'Assemblée le 1er février. Il y a les 3 décrets aussi qui ont été dictés par le ministère de l'Intérieur, qui organisent un fichage des syndicalistes, etc., avec les opinions aussi, et donc c'est extrêmement dangereux. Il y a aussi le schéma national du maintien de l'ordre, qui est toujours en vigueur et dont on ne veut pas. Ce qu'on peut toujours regretter, c'est le manque de dialogue sur toutes ces propositions de loi. Il y a en plus le Beauvau de la sécurité qui va s'ouvrir et qui provoque aussi... on a perdu la boussole, on ne sait pas où on est. Donc là, il est grand temps de clarifier le discours, le débat politique, et surtout, pour y voir beaucoup plus clair, qu'ils suppriment tous ces textes liberticides et qu'on se mette autour de la table. On est dans une situation sanitaire extrêmement dégradée, compliquée. Je crois qu'il y a plus urgent aujourd'hui.
En France, toujours un accord entre le gouvernement et le CFCM, le Conseil français du culte musulman, qui a établi une charte, une demande du président Emmanuel Macron. C'est un texte posant les principes d'un islam de France. Précision de Simon Rosé pour RFI.
C'était mi-novembre, dans le cadre de sa volonté de lutter contre le séparatisme islamiste, Emmanuel Macron demandait au CFCM, le Conseil français du culte musulman, d'écrire une charte, un texte posant les principes d'un islam de France. Deux mois plus tard, c'est chose faite, et proclamé l'égalité homme-femme, ainsi que, je cite, « la compatibilité de la foi musulmane avec la République » ou encore le rejet, je cite toujours, « de certaines pratiques coutumières prétendument musulmanes ». Durant ces deux mois, l'écriture de ce texte a provoqué une grave crise au sein du CFCM. Avec le départ du recteur de la Grande Mosquée de Paris de la table des négociations, il dénonçait alors l'influence d'une composante islamiste au sein de l'instance. Les dirigeants du CFCM sont donc visiblement parvenus à un accord, mais cette charte n'est pas encore définitivement adoptée. L'organisme est en effet composé de 9 fédérations différentes qui vont donc désormais devoir chacune donner leur accord. Cela marquera la fin de la première étape d'une restructuration de l'islam de France, voulu par l'exécutif, qui doit aboutir à la création d'un Conseil national des imams.
Le Parti chrétien-démocrate allemand, la CDU, a un nouveau président, comme nous l'explique Pascal Thibault pour RFI.
Ce congrès de la CDU a un air de déjà-vu. À son issue, le Parti chrétien-démocrate se retrouve divisé avec un faible écart entre les deux candidats qui défendent deux lignes contradictoires. Armin Laschet, qui incarne la continuité avec l'ère Merkel et une ligne centriste, l'emporte avec une cinquantaine de voix d'avance. Le perdant de ce congrès est à nouveau Friedrich Merz, favorable à un coup de barre à droite du parti. Avec 47% des voix des délégués, son poids au sein du parti n'est pas mince. Et à nouveau, sa première réaction a été de ne pas intégrer les instances dirigeantes de la CDU. Armin Laschet, qui se présentait comme un candidat rassembleur, devra rapidement prouver qu'il tient parole.
Je suis conscient de la responsabilité liée à cette fonction. Je veux tout faire pour que, ensemble, nous fassions en sorte que le prochain chancelier soit un chrétien démocrate.
Armin Laschet a quelques semaines pour s'imposer comme candidat à la chancellerie. Le choix doit se faire comme d'habitude entre les deux partis du pôle conservateur, la CDU et la CSU bavaroise. Deux élections régionales en mars constitueront un premier test pour Armin Laschet, ainsi que les sondages qui ne lui accordent qu'une modeste popularité. Un autre homme, le très populaire patron de la CSU, Markus Söder, est déjà en réserve de la République si Armin Laschet ne convainc pas rapidement.
Le président ougandais, Yoweri Museveni, rejette les allégations selon lesquelles sa victoire électorale est fraudulente. Il vient de remporter un sixième mandat. Certains ont du mal à comprendre comment les résultats de l'élection ont été compilés lors d'une panne d'Internet. Son principal challenger, Bobby Wine, a également qualifié les résultats de fraudulents. En Australie, à nouveau, les équipes de pompiers ont travaillé toute la nuit pour combattre un incendie hors de contrôle dans les banlieues au sud de Perth. Un avertissement d'urgence de feu de brousse a été émis hier soir pour ces banlieues en question. Les résidents ont été invités à évacuer et à trouver un autre logement car le feu qui se dirigeait vers l'ouest se déplaçait rapidement. Près de 200 pompiers ont combattu le feu de brousse hier, selon le département des services d'incendie et d'urgence d'Australie. Australie occidentale. On passe à la météo. Pour ce dimanche, en Australie, à Perth, il fera 36 degrés. Adélaïde, 25. Melbourne, 21. Hobart, 19. Canberra, 28. Sydney, 26. Brisbane, 29. Cairns, 31. Darwin, 35. Et à Alice Springs, maximale de 29 degrés. Un rappel des grands titres de ce 17 janvier. L'Australie s'efforce de comprendre les problèmes de sécurité liés au vaccin Pfizer. La Nouvelle-Galles du Sud enregistre 6 cas de Covid-19 acquis localement. Et 47 joueurs et joueuses de tennis de l'Open d'Australie entrent en quarantaine stricte et complète. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.